Nous sommes en direct depuis cette très belle librairie, la librairie Kléber, qui est située place Kléber. Vous suivez pas tellement, hein, Camille. Et on retrouve votre revue
Très bien
presse.
La librairie Kléber, je ne vous permets pas.
Et ben voilà, d'ailleurs, on les saluera. Et de votre part, on retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et donc, on va voir un peu au plus près comment s'organise le grand débat voulu par le gouvernement. On va en parler avec des acteurs de la démocratie locale. Ça sera aux environs de 8h15. En attendant, nous sommes en compagnie du maire de Strasbourg, Roland Ries. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour.
Et puis, je suis également en compagnie de notre partenaire, les dernières nouvelles d'Alsace, qui sont représentées ici par Pascal Coquis, qui est éditorialiste au DNA. Bonjour, Pascal Coquis.
Bonjour.
Roland Ries, votre regard sur la période, sur cette crise que traverse la France aujourd'hui, comment la voyez-vous depuis Strasbourg?
Alors, cette crise, je vous avoue que je ne l'avais pas vue venir et je pense ne pas être le seul. Je crois que l'époque que nous vivons aujourd'hui, mais ça ne remonte pas au tsunami Macron il y a 2 ans, cela remonte à plus loin, c'est évident. Je pense que cette époque est une époque à la fois de grandes mutations, rapides, et donc une époque de mutations pas forcément facile à prévoir. C'est ces deux caractéristiques qui me frappent aujourd'hui, lorsque je regarde avec un peu de recul ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est rapidité des changements, des métamorphoses, je devrais dire, et puis le corollaire de cela, c'est une certaine impossibilité de prévoir quoi que ce soit à moyen terme et même à court terme. Nous avons des élections municipales dans 14 mois. Mmh. Je suis maire de Strasbourg. Je suis incapable de dire ce qui va se passer. Parce que les choses bougent en permanence, quotidiennement, en quelque sorte. Et je crois que cette caractéristique-là...
Alors, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui portent des petites pancartes tous unis contre le GCO. On va parler du GCO, mais alors, il va falloir expliquer ce qu'est le GCO, parce que c'est une question qui est aujourd'hui débattue à Strasbourg, mais à l'échelle nationale, elle n'est pas tellement connue. Le GCO, c'est le grand contournement, monsieur le maire.
Le grand contournement ouest.
Et ce grand contournement, eh bien, il pose question à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être tout d'abord, Pascal Coquis, nous dire en quelque sorte pourquoi ce débat aujourd'hui est un débat particulièrement animé à Strasbourg?
C'est un très très vieux débat, puisque le GCO est dans l'air du temps depuis plus de 30 ans. En fait, c'est pour faire simple et pour expliquer aux auditeurs nationaux, c'est le désengorgement des abords de Strasbourg. C'est-à-dire que Strasbourg est desservie par l'autoroute, qui est le périphérique strasbourgeois, qui a été construit pour absorber 80 000 véhicules jour et qui aujourd'hui en compte plus de 160 000. Donc tous les matins et tous les soirs, c'est extrêmement pollué et extrêmement accidentogène.
Écoutez, on va prendre quelqu'un, puisque la salle est largement remplie d'opposants apparemment au GCO. Voilà, si vous voulez vous approcher du micro et nous dire... Alors, tenez, prenez ce micro-là, madame, et dites-nous en substance pourquoi vous êtes hostile à ce projet.
Merci beaucoup pour déjà nous accueillir alors que c'était pas prévu. Alors bon.
C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Hein, Non, parce que si vous voulez rester debout, mais bon. On demande pas tant d'honneur quand même. Allez-y, madame, expliquez-nous
alors,
pourquoi vous êtes contre le GCO.
Pourquoi nous sommes contre? Bon, déjà, c'est une autoroute déjà qui va être payante, qui est financée avec un projet de Vinci. Donc ça représente plus de 500 millions d'euros. Et ça a déjà entraîné une perte massive de forêts et de terres agricoles en Alsace, alors qu'on sait que les terres agricoles alsaciennes sont parmi les plus fertiles d'Europe. Mais c'est pas que ça va aussi entraîner le remembrement de plusieurs milliers de terrains justement agricoles de par cette autoroute. Ça ne va pas faire diminuer les bouchons, puisque une autoroute en plus, c'est bien connu, ça ne fait pas diminuer les bouchons. Et en fait, ça va même créer un axe vraiment européen de transit et de couloir à camions. Et ça ne va pas non plus diminuer la pollution, puisque justement, ça va ramener encore plus de camions dans la plaine d'Alsace. Donc on va continuer à avoir de la pollution déjà sur Strasbourg, mais aussi dans les campagnes environnantes. Donc voilà. Et donc on est là aussi.
Hostile.
Voilà, tout à fait. Et c'est aussi parce que Roland Ries s'est déclaré en 2008, dans un interview de l'Express, et aussi avait envoyé une lettre au président en se disant justement contre le projet. Il avait, je cite, dit que c'était un projet archaïque, que le transfert des nuisances n'était pas une solution, etc. en 2008. Donc voilà, ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est ce retournement de veste où eh bien, maintenant écoutez, le maire est pour le GCO.
On va le laisser répondre. Cela dit, on peut éloigner. Je crois que vous êtes venu avec... quelques-uns de vos camarades.
Bah, en fait, on n'est pas entendu au débat national, donc c'est pour ça que dès que l'occasion est là, si on peut d'accord, en parler, donc c'est gentil de vous laisser l'antenne.
On comptait. Non, je ne vais pas vous laisser l'antenne, mais je vais laisser répondre.
Oui, d'accord. Et que la France soit au courant de cette situation, mais parce que
vous savez, sur France Culture, on a toujours été très attentifs à ces questions-là. Et merci. Donc, de toute façon, on comptait effectivement aborder notamment cette question-là avec Monsieur le Maire Roland Ries. Roland Ries.
Bien, je comprends un peu mieux qu'il y ait autant de monde à cette.
Arrêtez, vous êtes vexant.
Non, je ne suis pas vexant, je le dis simplement. C'est très bien.
Non, il y a encore du monde qui attend, qui n'a rien à voir avec le GCO.
Bien.
Continuez, monsieur
Alors,
le maire.
Je vais répondre voilà. d'abord sur ce que vous avez appelé le retournement de veste. C'est vrai que j'étais sceptique en 2008, je l'ai dit, j'étais même... opposé à la construction de cette autoroute de contournement. C'est exact. J'ai changé d'avis, mais je précise que j'ai changé d'avis avant les élections de 2014. J'ai pris un point de vue différent. J'ai donc été élu en 2014, alors qu'on savait que j'avais changé d'avis. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis ? Pour une seule raison. C'est que des études épidémiologiques ont été menées sur... les abords de l'autoroute A35, celle qui est aujourd'hui saturée à 160 000 véhicules par jour, qui montre une recrudescence des maladies respiratoires à cet endroit-là. Et je n'ai pas de solution pour cela. Je crois que les opposants au GCO n'en ont pas non plus. Cela fait maintenant...
Non, attendez, s'il vous plaît. Non, je veux bien qu'on aborde cette question-là, mais par contre, il faut conserver une forme de civilité, notamment pour les auditeurs, et donc laisser à la fois le maire répondre, et puis ensuite, vous reprendrez la parole. Vous savez, à la radio, ça se voit pas, les pancartes.
Non, mais
je vous dis juste ça.
Juste pour dire que j'ai ramené un livret qui, justement, répertorie 10 solutions pour éviter les bouchons, qui sont des solutions très...
On va les aborder juste après, mais j'aimerais juste que le maire aille jusqu'au bout de son raisonnement. Et puis, en plus, quand vous parlez de retournement, alors il y a le retournement et le grand contournement, puisqu'il est question donc de cette autoroute, mais le maire explique pourquoi sa position a évolué. Après tout, on peut avoir des positions qui évoluent aussi dans la vie. Monsieur le maire.
Donc, à partir de cette étude épidémiologique, j'ai effectivement changé d'avis. Mais je le répète, avant les élections de 2014, cela a été dit publiquement à plusieurs reprises. Et pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis ? Pour ces raisons-là. Donc, me semble-t-il, aujourd'hui, on ne peut pas nous faire le reproche à Strasbourg de ne pas développer des alternatives à l'usage de l'automobile. On le fait depuis longtemps, et j'ai été moi-même président du groupement des autorités responsables de transport. Cela fait 20 ans que nous travaillons là-dessus, enfin depuis le lancement, même plus, depuis le lancement du tramway à Strasbourg, au début des années 90. Donc l'idée de l'alternative à l'automobile, elle est dans ma tête, et nous continuons à étendre le réseau. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a toujours 160 000 véhicules par jour sur l'autoroute.
Alors, madame qui est à côté de monsieur le maire, qui est donc opposante à ce GCO, quelles sont les alternatives pour vous? Parce que, apparemment, alors moi je ne suis pas un utilisateur de la voiture à Strasbourg, mais on dit que le périphérique est extrêmement encombré, on dit qu'il y a des polluants divers, bref, que la situation n'est pas tenable. Il y a, semble-t-il, beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a des vélos, il y a des tramways. Bref, c'est une ville qui se soucie d'écologie, qui a toujours été présentée en France comme étant extrêmement motrice dans ce domaine-là, sans mauvais jeu de mots. Qu'est-ce que vous préconisez pour se substituer à ce GCO ?
Merci. Alors, déjà, ce livret des 10 solutions est disponible en PDF sur Internet et tout le monde peut y avoir accès. Alors, je vais prendre justement une solution que Monsieur Roland Ries avait déjà proposée. Donc, quand il avait envoyé ce courrier en 2008 à l'État, où justement il parlait de l'écotaxe. Où en fait aujourd'hui, pourquoi on est en train de camions en Allemagne, en Alsace, pardon, c'est parce qu'en Allemagne, il y a justement une écotaxe qui fait que tous les camions qui veulent traverser l'Europe se retrouvent donc à traverser en Alsace où toutes les routes sont gratuites. Et donc, par exemple, rétablir cette écotaxe, ça pourrait être une solution. Et Roland Ries lui-même a donné cette solution-là. Après, il y en a plein d'autres. Il y a mettre tout le transport qui est sur les camions, plutôt sur le fluvial. On a un port du Rhin qui est très actif à Strasbourg. Sur les trains, il y a énormément de petites lignes qui aujourd'hui ne sont pas assez développées, où il y a vraiment du besoin. Bon, on me dit d'aller plus lentement. Il y a aussi mettre en place.
Vous savez, on peut pas non plus.
Oui, c'est ça.
Vous représentez l'association GCO, donc ce grand contournement non merci. Pourquoi n'êtes-vous pas entendu dans le grand débat, puisqu'après tout, tous les thèmes peuvent être abordés dans le débat tel qu'il se déroule aujourd'hui. Qu'est-ce qui a rendu cette question absente?
Nous, on est là, on en parle. Hein. Dès qu'il y a des occasions, je le dis encore une fois, il y a eu France Inter qui était venue, on y était. Dès qu'il y a des moments pour en parler, on en parle.
Et quand il y a eu... S'il vous plaît.
Apparemment, on a voulu parler du GCO au grand des débats et ça n'a pas été traité.
Et lorsqu'il y a eu la mobilisation des Gilets jaunes, puisqu'il y a une mobilisation des Gilets jaunes, est-ce que vous vous êtes joint au mouvement? Comment vous observez ce mouvement, madame?
Alors moi personnellement, oui, on soutient parce que pour nous, enfin après, je parle là pour le coup, je parle moi à titre individuel, mais on a aussi des gilets jaunes. En fait, nous on est dans une idée que l'écologie ne doit pas être punitive et donc taxer les vrais coupables, donc les avions, etc. Et donc taxer
les voitures. Pollue aussi, on a beau
bien sûr,
tous
mais,
utiliser des
mais
voitures.
Mais on peut apporter des solutions collectives pour la collectivité plutôt que rendre les individus coupables d'un changement climatique alors que certaines taxes peuvent être mises en place sur les véritables responsables qui seraient des entreprises comme Vinci.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire?
Moi, je ne suis pas du tout hostile à la mise en place, effectivement, de l'écotaxe poids lourd. Je regrette, effectivement, qu'elle ait été abandonnée. J'étais le rapporteur, à l'époque j'étais sénateur, j'étais rapporteur sur cette écotaxe. Elle avait fait une quasi-unanimité au départ. Mais comme souvent dans ce pays, à force de tergiverser, de discuter entre Sénat, Assemblée nationale, lobbies divers et variés, elle a fini par sombrer, corps et bien. Moi, je suis d'accord pour qu'on la rétablisse, parce qu'il y a effectivement une distorsion entre les deux rives du Rhin.
C'est-à-dire
De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la Maut, donc un péage pour les poids lourds en Allemagne. Et de ce côté, il n'y en a pas pour l'instant.
Et le tramway qui est en bas, c'est un tramway qui va en Allemagne et il a été inauguré il y a un mois. Est-ce que les mouvements de population sont importants entre...
Un peu plus d'un mois, mais...
Bon. On m'a dit tout à l'heure un mois.
C'est le prolongement.
Le prolongement a été inauguré il y a un mois. Est-ce que il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements de population entre l'Allemagne et Strasbourg?
Bien sûr. Ce sont deux villes, Strasbourg et Kehl, qui sont dans la même agglomération, à vrai dire, avec l'ancienne frontière, le Rhin, qui aujourd'hui est un fleuve traversant de ces agglomérations. C'est la raison pour laquelle on a effectivement étendu le tramway de l'autre côté du Rhin pour justement donner une alternative à la circulation automobile entre Kehl et Strasbourg.
Vous qui représentez, madame, cette association GCO non merci, puisque à chaque fois qu'il est question de grands travaux, on explique que ces grands travaux, alors certes, ils sont coûteux, donc ils pèsent sur la collectivité, mais ils créent aussi des emplois. Et on considère que ceci représente des investissements importants. Vous voyez, j'ai un petit livre, par exemple, de Roosevelt, que j'ai trouvé dans la librairie sur les grands travaux qui ont été faits dans les années 30. Et ces grands travaux dans les années 30, on considère qu'ils sont en grande partie responsables de la résorption du chômage. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses, vous?
Alors... justement, dans les 10 solutions, j'y reviens encore une fois, on a beaucoup de solutions qui en fait sont apportées, par exemple, sur une amélioration du service public des transports, qui justement créerait beaucoup plus d'emplois à plus long terme et plus pérenne pour un plus grand nombre de personnes, plutôt que là un chantier qui va demander à beaucoup d'ouvriers de venir sur un temps précis, mais après ce sera des péages automatiques. Alors que là, tout ce qu'on met en place, des tram-trains, plus de services publics, enfin, il y a encore 10 solutions, je ne les ai pas données, mais ça générerait beaucoup plus d'emplois publics et à beaucoup plus long terme et pour beaucoup plus de personnes.
Pascal Coquille,
et moins cher.
Mon camarade des DNA, votre point de vue, parce que vous suivez, ça fait combien de temps que ça a débuté cette mobilisation contre le GCO ?
Ça fait un petit moment, parce qu'en fait, il y a eu de nombreux rebondissements. Il y a eu l'évacuation aussi de la ZAD en septembre, qui a été assez dure, avec plus de 500 gendarmes qui avaient été envoyés.
C'était une ZAD importante ?
Oui, c'était une ZAD importante et très vivante. En fait, cette histoire du GCO symbolise complètement ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire, à un moment, une décision politique. Je discute pas du bien fondé, je suis pas un expert pour savoir si c'est bien ou mal, et une opposition des citoyens. Faut se souvenir quand même qu'en septembre, il y avait plus de 5000 personnes qui ont manifesté à Strasbourg pour le climat et contre le GCO à ce moment-là. Donc c'est quand
même... Vous pensez que les 5000 personnes étaient toutes contre le GCO aussi? C'est quelque chose qui va de pair?
Oui, et oui. Pour revenir sur la question des enquêtes, il y a 7 enquêtes qui ont été faites, dont l'enquête publique, et donc où la population aussi dit qu'elle n'en veut pas.
Donc il y a effectivement cette séparation qui s'est passée il y a quelque temps entre les élus et la base, qui fait qu'on arrive à des situations assez sensibles.
Monsieur le maire, justement, puisque donc aujourd'hui, dans cette salle, il y a manifestement principalement des opposants au GCO, mais parmi vos administrés dans la ville, est-ce que vous ne pensez pas là aussi s'il y a un retournement en quelque sorte de l'opinion publique? Est-ce que ce projet est un projet indispensable ou est-ce qu'il y aurait des alternatives envisageables?
Je voudrais dire d'abord que il y a une déclaration d'utilité publique quand même qui existe.
S'il vous plaît, laissez le maire répondre.
C'est incontestable, cette déclaration d'utilité publique, on peut la contester, mais elle existe aujourd'hui. Ensuite, il y a eu effectivement des jugements des tribunaux qui concernaient les compensations par rapport à la construction de cette autoroute de contournement. Et on considère, enfin, dans la salle, que c'est des oppositions au principe même du grand contournement ouest. C'est pas tout à fait exact.
C'est-à-dire
que les tribunaux ont estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de compensation par rapport à l'abattage des arbres, etc. Ce qui est possible, même si les autorités, notamment de l'État, puisque c'est un projet d'État, considèrent qu'on est allé très au-delà de ce qu'on a pu faire ailleurs. Donc je pense qu'il y a là-dessus peut-être matière à discussion, mais on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas légalement de déclaration d'intérêt public.
Voilà un exemple de grand débat avec un thème imprévu. On n'avait pas du tout prévu de parler du GCO ce matin en compagnie du maire Roland Ris, de Pascal Coquille des DNA. On se retrouve dans une quinzaine de minutes sur France Culture. En attendant, il est 8h. Nous sommes donc en direct de Strasbourg. Je suis en compagnie de Pascal Coquille, qui est éditorialiste aux Dernières Nouvelles d'Alsace. Et nous sommes en compagnie de deux maires. Le maire de Phalsbourg, Dany Cochet, que je salue, et Roland Ris, maire de Strasbourg. Une réaction tout d'abord à ce que vient de dire Frédéric Saïs, Roland Ris.
Je trouve très intéressant effectivement de parler de cette passion, voire de cette frénésie de l'évaluation. Mais je rappelle aussi qu'elle a son pendant, je dirais, négatif. C'est-à-dire que il y a des élus, ou il y en avait, qui considéraient que la meilleure façon de se faire réélire, c'était de ne rien faire. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'évaluation, puisqu'on n'a rien fait. Alors on peut le reprocher aussi. Je pense que lorsqu'on est sur des chemins nouveaux, lorsqu'on essaye de construire des politiques novatrices en matière d'environnement ou dans d'autres domaines, il faut faire des évaluations. Et l'évaluation, elle consiste à mesurer au bout d'un certain temps, peut-être de façon indépendante, si la réforme en question ou le projet en question a été une bonne chose, une mauvaise chose, ou intermédiaire, un élément à corriger en quelque sorte, à amender. Moi, je suis très favorable à l'évaluation avec cette perspective de pouvoir faire des choses et ensuite, le cas échéant, de les abandonner, de les corriger ou de les étendre lorsqu'elles fonctionnent.
Dany Cochet, vous qui êtes maire de Phalsbourg. Phalsbourg, c'est une commune qui est située à 45 km de Strasbourg et à 100 km de Metz. Vous avez vécu une situation particulière pour protester contre la fuite des services publics, la fermeture de deux classes. Vous avez entamé une grève de la faim. Vous allez nous raconter ça. Mais tout d'abord, sur cette notion d'évaluation, et puisqu'il est largement question des 80 km/h, votre point de vue, par exemple, sur cette mesure?
crois qu'une fois de plus, on est sur un... C'est rigolo de dire ça en ce moment, sur une espèce de faux débat. Il y a différents gestionnaires des voiries dans ce pays, communes, départements, l'État, voire des autoroutes concédées. Et sur les routes départementales, le département avait la fonction, et l'a toujours exercée, de réguler la vitesse en fonction du danger. Et vous aviez des morceaux départementales à 50, à 60, à 70, à 80, en fonction de l'évaluation des services compétents sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une fois de plus une décision qui est tombée d'en haut et on est en train de nous dire, ah ben, on va maintenant effectivement regarder, peut-être évaluer en fonction de la dangerosité de la route, ce qui a toujours existé par le passé. Donc, je crois que, voilà, on est sur un débat qui occupe une fois de plus beaucoup l'actualité, qui a mobilisé beaucoup de politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État, qui, à mon avis, aurait vraiment beaucoup d'autres choses à faire.
Pascal Coquise des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Votre point de vue, vous qui suivez l'actualité locale, est-ce que les 80 km/h ont vraiment été le déclencheur de la crise des Gilets jaunes? Et alors maintenant que les chiffres, si on les tient comme responsables de la baisse de la mortalité, ces 80 km/h, est-ce qu'il faut faire machine arrière?
Non, mais alors, c'est assez intéressant cette histoire de 80 km/h, effectivement, parce qu'il y a eu une éruption volcanique tout à coup sur un sujet qui pouvait sembler pas éruptif du tout au départ. Enfin, en tout cas, fallait vraiment être devin pour penser que ça allait créer une insurrection comme ça a été le cas au printemps dernier, enfin 2018. Ce qui est clair, c'est que il y a eu, quand on parle de déclencheur, oui, ça a été un des creusets du mouvement des Gilets jaunes, puisque les manifestations, je crois qu'il y en a eu plus de 400 à l'époque de motards et d'automobilistes, bien travaillées aussi par le lobby de l'automobile. Faut pas en sous-main, il y a quand même toujours ça. Je vois Édouard Philippe hier qui... Il y a aussi un enjeu politique pour lui, puisque lui s'est quand même très engagé dans ce débat, en expliquant que c'était quelque chose d'impopulaire, mais qu'un homme politique devait, à un moment, assumer les choses impopulaires. Je trouvais ça assez courageux. Visiblement, Emmanuel Macron et au sein de son gouvernement à l'époque, Gérard Collomb, était opposé à cette mesure comme d'autres. Il a tenu bon. Hier, en dévoilant les chiffres de façon un petit peu rapide, il joue aussi une carte politique, puisqu'il a labellisé historique cette baisse. On sait très bien qu'il faut attendre un petit peu pour savoir si les morts, il y en a eu aussi peu que ça, si la baisse a été de 189, ou si... Enfin, je veux dire, les chiffres ne sont pas aussi fins que ça. On avait au départ parlé de 2 ans d'expérimentation. Là, on voit bien qu'il y a une course de vitesse, parce qu'il y a un enjeu politique important. Édouard Philippe joue quelque chose, Macron joue quelque chose et chacun essaie d'abattre sa carte la plus vite possible. Quoi.
Dany Cochet, vous êtes maire de Phalsbourg, une commune d'un peu moins de 5000 habitants. Vous avez entamé une grève de la faim en 2018 pour protester contre la fermeture des services publics. Expliquez-nous dans quel contexte vous l'avez entamé. Qu'est-ce qui a été l'événement déclencheur de cette décision très dure ?
Oui, alors l'événement déclencheur est justement l'annonce de fermeture de 2 classes. Ce qui, par le passé, m'émeuvait pas plus que ça dans une ville de 5000 habitants. De temps en temps, une classe ferme, de temps en temps, une ouvre. C'est pas un enjeu majeur, contrairement à un petit village. Néanmoins, c'est vrai que c'est tombé à un moment donné, d'une forme de ras-le-bol par rapport à la difficulté que nous avons aujourd'hui de dialoguer avec l'État, avec les services de l'État, qui sont, comme on le sait, avec un effet de ciseau de moins en moins nombreux, à gérer des lois et des textes et circulaires de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Donc, ce qui provoque chez nous un manque de réponse, voire des réponses négatives, histoire pour les services de l'État de pas de s'engager, de pas prendre de risques éventuellement de donner une mauvaise réponse, voire une réponse juridiquement fausse. Donc on est très très confronté aujourd'hui. Moi je suis maire depuis 25-26 ans maintenant. Je peux vraiment dire que j'ai senti à l'échelle d'une ville de 5000 habitants une évolution que je ressens comme négative dans nos marges de manœuvre.
C'est votre emploi à temps plein,
oui,
maire.
Oui. Et je ressens vraiment une difficulté de plus en plus grande par rapport à ce que j'appellerais non plus une démocratie, mais une technocrature.
Vous avez eu la possibilité, justement, donc ce que vous appelez la technocrature, lorsque vous avez tiré la sonnette d'alarme. Est-ce qu'on vous a entendu avant votre grève de la faim ?
Non, Il y a eu quelques échanges avec le directeur académique, avec le directeur local, avec la sous-préfecture, effectivement sans être entendu comme la plupart des maires ruraux, puisque c'est un sujet en 2018 qui a pas mal animé aussi les mouvements de maires ruraux, notamment par rapport à la décision de dédoubler les classes en quartiers difficiles, ce que je trouve par ailleurs une bonne mesure, mais qui demande peut-être aussi un peu d'équité dans les zones rurales les plus en difficulté. Alors, ça a été le déclencheur, ça a été effectivement à un moment donné l'étincelle par rapport à des relations compliquées. Alors, pourquoi je me suis un petit peu fâché, c'est que j'avais mes propres chiffres qui laissaient penser qu'on allait gonfler en effectif, que je venais quelques jours avant d'accueillir spontanément 80 demandeurs d'asile dans une auberge jeunesse avec beaucoup d'enfants que l'inspection n'avait pas pris en compte dans les effectifs. Donc voilà, il y avait plusieurs sujets concomitants qui faisaient que j'étais pas content. Je me dis, bon, il y en a marre de subir. Alors d'abord, j'ai changé les barrières de toutes les écoles de la ville pour que les instits et les enfants ne puissent plus rentrer dans les écoles. Au bout de 2-3 jours, le préfet a demandé un référé suspensif au tribunal administratif contre ma décision. Là-dessus, j'ai entamé la grève la fin pour monter d'un cran la contestation. Et puis, comme vous savez bien que les énarques ont tous appris à l'école une règle d'or, c'est PDV, MVPDV, pas de vague, mon vieux, pas de vague. Et ben, le lendemain, le directeur académique a débarqué. J'ai interrompu momentanément ma grève la fin, le temps de discuter. Au bout de 2 heures, mes classes étaient sauvées. Comme quoi, effectivement, la contestation, le bras de fer... est malheureusement devenu aujourd'hui un moyen incontournable.
Vous voulez continuer à être maire, Dany Cochet ?
Alors, comme je vous le disais, ça fait 26 ans, l'an prochain 27, j'ai annoncé il y a à peu près 3 mois que j'arrêterai.
Pourquoi ?
Ben parce que
ça fait trop longtemps ou parce que là, vous en avez assez ?
C'est difficile de prendre une décision et d'évaluer pourquoi on la prend à un moment donné, surtout une telle décision. Je suis à côté d'un collègue maire.
On va poser la question à Roland Ruiz, qui est maire
qui est confronté, je crois, un peu aussi, comme tous les maires, tous les 6 ans. Bon, la décision, je l'ai prise sereinement parce que, voilà, 27 ans de mandat, je pense que pour moi, et pour la démocratie aussi et l'évolution des représentants, je pense que c'est important qu'il y ait à un moment donné un turnover et qu'on puisse le décider soi-même aussi. Parce que forcément, ce contexte que je décris, à mon avis, a dû peser aussi dans la décision. Et puis parce qu'à un moment donné aussi, quand on a une vision du monde et de la politique, qu'on n'est plus forcément d'accord avec ce qui se passe dans son pays, dans l'Europe et dans les grandes politiques ultralibérales qui nous dirigent.
Quoi, par exemple ?
On n'a peut-être pas envie d'être complice non plus de certaines politiques.
Dany Cochet, qu'est-ce qui vous rend le plus en colère par rapport à ces politiques ?
C'est pas forcément une question de colère, c'est une question de se sentir en décalage.
Bon, quand tout on fait à l'heure. Grève de la faim.
Grève de la faim, là, c'est une colère par rapport effectivement à une administration sourde, distante et devenue inefficace. Bon. Après, quand je parle de politique nationale ou internationale sur laquelle on n'est plus forcément en adéquation, c'est pas forcément une colère. C'est un point de vue et c'est une façon de l'exprimer. Je veux pas refaire le débat qu'il y a eu tout à l'heure sur le GCO. Je suis pas spécialement concerné, mais je pense qu'effectivement.
Le GCO, c'est le grand contournement. Il y a beaucoup de personnes dans la salle qui sont contre le GCO et donc vous êtes contre aussi, Dany Cochet.
Oui, c'est ce que je vous dis, c'est mon regard sur des politiques globales. Autant je pense que c'était un projet d'aménagement du XXe siècle qui avait du sens, autant je pense que ce n'est plus un projet du XXIe siècle avec tous les débats qu'on peut avoir aujourd'hui, tous et toutes et tous les partis politiques et tous les penseurs sur le climat, sur la planète, sur la transition énergétique. Je crois qu'effectivement cet aménagement est désuet.
Roland Ruiz, est-ce que vous avez ce même... ce même regard par rapport aux difficultés à communiquer avec ce que Dany Cochet appelle la technocrature, ce qui est un terme un peu dur, comme son mot l'indique.
Ce mot technocrature, il me semble que c'est une forme de syncrétisme à la fois sur le poids de la technocratie et de la technologie qui aujourd'hui nous gouverne.
Alors, moi je partage cette analyse concernant la technocrature, mais...
Pourtant, c'est avec une nuance, là aussi assez radical.
Avec une nuance, je pense que c'est lorsque les politiques laissent la place, qu'ils n'exercent pas complètement leurs fonctions. C'est pas le cas de Dany Cochet, évidemment, qui est allé jusqu'à la grève de la faim. C'est lorsqu'ils laissent la place que la place est occupée par les technos. Donc, c'est à nous de prendre nos risques, de prendre nos orientations et de les imposer à la technicité, et pas le contraire. Mais je dirais qu'il y a responsabilité partagée dans l'émergence de cette technocrature qui me paraît être une perversion de la démocratie.
Mon camarade Frédéric Seyss.
Oui, Emmanuel Macron a dit qu'il allait déconcentrer le pouvoir et qu'il renonçait désormais à ce que toutes les décisions soient prises depuis Paris, c'était son expression. Alors question à nos invités, si l'État devait déconcentrer certaines compétences, quelles seraient celles que vous aimeriez recevoir en priorité?
Peut-être Denis Cochet, maire de Phalsbourg.
Oui, alors là-dessus, avant d'évoquer des nouvelles compétences, j'aimerais juste faire un commentaire sur les propos du président. Je trouve assez étonnant aujourd'hui, alors que on est dans un pays qui a peut-être le plus de maillons intermédiaires et de corps intermédiaires. Entre nos fameuses 36 000 communes, nos intercommunalités, les départements, les régions, les deux chambres, l'Élysée qui n'existe pas partout, l'Union européenne et la foultitude d'organismes divers et variés, d'associations, de fédérations, de conseils, d'observatoires de toutes sortes, dont certains, on l'apprend en ce moment, sont très bien rémunérés. Malgré ça, on arrive de nouveau à un système où, après un président, un hyper-président et un président normal, on a un omniprésident qui a comme les droits, comme les rois qui avaient le droit divin de venir guérir les écrouelles du peuple directement entre lui et les gens.
Je vous dites ça parce qu'on a parlé de Marc Bloch qui a écrit Les Rois Thaumaturges et qui est de Strasbourg.
Oui. Mais voilà, je trouve qu'il y a un paradoxe énorme à la fois entre ce débat qui se fait directement par Internet avec l'Élysée et l'Élysée qui descend directement au contact de la population.
Ce qui fait qu'on a finalement... Vous allez en faire un grand débat chez vous, Denis Cochet.
Oui, alors finalement, on a une campagne électorale permanente, avec un quinquennat qui durait déjà 2 ans, maintenant elle dure tout le temps. Donc je trouve ça un peu quand même compliqué.
Mais voilà. Vous allez en faire un grand débat?
Je sais pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai pas de demande spéciale du conseil municipal, ni de mon opposition.
Vous avez ouvert un cahier de doléances?
Il y a un petit cahier de doléances, évidemment.
Et les gens, ils disent quoi?
Très fourni, ils disent à peu près les mêmes choses que ce qu'on peut lire. Mais là aussi, vous voyez, ce grand débat, notamment avec Internet, il y a des milliers de contributions qu'on voit sur Internet. On a l'impression aujourd'hui que ce grand débat tourne à la réunion de quartier, où chacun va dire que sa lampe ne marche plus, que son trottoir est tordu, alors qu'on a tous les organes de débat dans ce pays qui existent et qui normalement devraient remplir leur rôle.
Roland Ries, maire de Strasbourg.
Alors, sur le grand débat, mon rôle est effectivement de faciliter ce grand débat. Je pense que c'est le rôle d'un maire, c'est pas à moi de l'arrêter. Et je ferai une réunion en salle du conseil municipal que j'ouvrirai. J'accueillerai ceux qui souhaitent y participer et à eux, à charge pour eux d'organiser ce débat. J'interviendrai si je suis interpellé, mais ce n'est pas à moi de le diriger, de le mener. Je pense qu'il faut saisir cette chance. Je suis un peu sceptique, je le reconnais, sur l'issue de ce débat. Comment est-ce qu'on va synthétiser tout ça et sur quoi ça va déboucher? Mais le débat, il est nécessaire. C'est pas à Strasbourg, qui est une ville où les débats sont nombreux. Il y a hier soir le début du Forum européen de la bioéthique, qui a maintenant sa 9e édition. Ça, très franchement, il y a énormément de monde qui veut débattre de ces questions et d'autres aussi.
Jamina Hadoum vient de nous rejoindre. Bonjour madame, vous êtes animatrice au Centre socio-culturel du Neuf à Strasbourg, initiatrice du Challenge Citoyen. Il faut tout d'abord nous dire ce qu'est ce Challenge Citoyen.
Alors le Challenge Citoyen, c'est un grand challenge lancé à tous les quartiers de France qui avait pour objectif de pousser les gens à aller voter suite aux élections régionales où dans le quartier du Neuf, il y avait plus de 80% d'abstention. Donc c'était juste pas normal, alors qu'il y avait une majorité des gens qui avaient cette possibilité-là et qui ne se déplacent plus. Alors avec l'équipe et beaucoup de bénévoles et surtout le service jeunesse, on a décidé de mettre en place ce challenge et lancer un concours avec 3 prix. Le prix du gagnant du quartier qui aura comptabilisé le plus de votants. Il y avait le prix de la meilleure initiative et il y avait le troisième prix qui était le quartier qui avait réuni aussi qui avait fait des très bonnes actions. Donc à partir de là, il y avait une cinquantaine de quartiers dans toute la France qui se sont inscrits. Donc il fallait que ce soit un quartier QPV de plus de 5000 habitants.
C'est-à-dire QPV?
Quartier prioritaire de la ville. Donc du coup, il y avait plus de 1 million de personnes. On a rencontré ces gens-là avec le service jeunesse. Donc l'objectif n'était pas seulement de lancer ce concours-là, mais d'aller se déplacer dans les quartiers de France et de voir comment que ça se passe, qu'ils puissent échanger entre eux. Et le résultat, il était juste magnifique.
Alors apparemment, ça donne d'excellents résultats. Et donc, en quelque sorte, l'idée de votre démarche, Jamila Hadoum, c'est de montrer à des jeunes qui sont dans des quartiers qui sont des quartiers plutôt pauvres, de leur montrer qu'ils peuvent faire des choses, qu'ils peuvent reprendre confiance en eux.
Eh ben c'est exactement ça. Donc du coup l'idée c'était vraiment pas de nous étions avec personne, nous expliquons juste qu'ils avaient ce pouvoir-là d'aller se déplacer, d'aller voter. Ils pouvaient voter pour qui le souhaitait. C'était vraiment important qu'on le mette en avant. L'idée c'était vraiment de se déplacer vers les urnes parce que ils ont cette possibilité-là de le faire. On a avec toute l'équipe hein, parce que vous dites Jamila, mais on était toute une équipe. On est parti taper à plus de 4000 portes du quartier du Neuf et nous avons fait du cas par cas. C'était pas facile, parce que pour certains, la politique c'était très loin. Pour d'autres, ils mélangeaient tout. On venait parler de politique, ils venaient de parler de bâtiments ou de justice. C'était très difficile de convaincre les gens à aller se déplacer et de déjà de s'inscrire, parce qu'on avait fait ça avant le 31, et pour une majorité, les gens n'étaient même pas inscrits, alors que ça faisait plus d'une cinquantaine d'années qu'ils étaient en France. Mais on a su leur expliquer les choses et on a su les convaincre.
Jamila Hadoum, comment vivent-ils ces jeunes la période que traverse la France ? Est-ce que la contestation des gilets jaunes, ça leur paraît être quelque chose d'assez éloigné de leurs préoccupations ? Est-ce qu'ils s'en sentent proches ? Racontez-nous.
Alors c'est un peu difficile parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a les gilets jaunes qui actuellement, les gens regardent parce que voilà, c'est devenu un petit peu une mode. Il y a des musiques, il y a des clips. Beaucoup de gens sont perdus dans cette histoire de gilets jaunes. Il y a les casseurs et puis il y a d'autres qui pour l'instant ne se sentent pas encore concernés et nous avons d'autres jeunes qui sont complètement dans les gilets jaunes mais ils veulent éviter, en fait avec la casse on a parlé à beaucoup de jeunes qui ne se déplacent pas parce qu'ils ont peur que ce soit une fois de plus qu'il y ait un mélange entre des jeunes de quartier avec la casse qui se passe en ce moment, alors ils suivent ça de loin, ils ne se déplacent pas, ils se sentent concernés parce que nous en parlons dans le service, mais ils préfèrent ne pas se déplacer juste pour pas se retrouver dans un mouvement où ils risquent d'être accusés.
Pascal Coquis, DDNA.
Oui, je voulais dire, c'est...
Dernière nouvelle d'Alsace.
Absolument. C'est effectivement la question des quartiers et qu'on oublie complètement aujourd'hui est essentielle et prioritaire. À chaque fois qu'on parle des quartiers, c'est au moment des crises et on parle de crise de banlieue, ce qui est le cas d'ailleurs aussi en Angleterre ou en Allemagne, où il y a les mêmes, ou en Belgique. Mais en fait, c'est une crise de la démocratie. Et quand ça rejoint complètement le combat des gilets jaunes, mais c'est un combat silencieux parce que ce sont des gens qui sont confinés dans leur quartier, qui n'en sortent que très peu parce qu'ils se sentent étrangers à la ville. Et on a loupé à mon avis, un coche très important avec la loi Borloo, qu'aurait été un moyen très intéressant de travailler sur ces quartiers qui doivent vraiment être au cœur de la priorité.
Une réaction, Jamila Hadoum.
Oui, donc effectivement, je pense qu'il faut, par rapport aux gilets jaunes, ce serait bien de vraiment se pencher. Nous avons mis en place, par exemple, pour des grands débats, au sein du Centre social et culturel, déjà, il y a un cahier de doléances qui est mis en place.
Ils disent quoi, les gens ?
Et pour l'instant, je vous avoue que j'y ai pas jeté un coup d'œil, mais on a permis ça. Et puis, il y aura, nous, avec le service jeunesse, donc il y a plusieurs réunions qui sont prévues, où ils peuvent dire ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils ont envie de dire, et puis que nous, on fera relever les résultats.
Et vous en pensez quoi, Dany Cochet ? Donc vous nous avez parlé du grand débat, vous étiez plus que sceptique, la mobilisation des gilets jaunes et la différence qui est faite à raison, à tort, entre les zones difficiles sur lesquelles travaille Jamila Hadoum avec des populations pauvres et des zones rurales, puisque Phalsbourg, dont vous êtes maire, est une petite ville de 5000 habitants à 45 km de Strasbourg.
Oui, sur cette question des quartiers, je crois qu'effectivement, on l'a un petit peu oublié, sauf la mesure scolaire que j'évoquais tout à l'heure. Et là aussi, une des grandes causes récurrentes qui est mise en avant par les candidats ou les élus est un petit peu, me semble-t-il, laissée une fois de plus de côté. Alors, on pourrait s'étonner sur le fait que le mouvement des Gilets jaunes n'ait pas fait tache d'huile, si je puis dire, contrairement à d'autres insurrections du passé ou dans d'autres pays, printemps arabe par exemple. On aurait pu se dire, tiens, les agriculteurs, la SNCF, les banlieues, tout le monde se retrouve à un moment donné dans la rue. C'était un scénario qui était à un moment donné évoqué, mais ça s'est pas fait. Je crois que c'est peut-être le signe aussi d'un pays qui est fracturé en corporation, en quartier, en urbain, en ruraux, en banlieusards,
ça,
en fonctionnaires, en petits commerçants. Et les gens ont du mal à, finalement, aujourd'hui, mettre ensemble leurs éventuelles revendications.
Ça s'est passé comment à Phalsbourg? Vous avez quoi? Vous avez des agriculteurs, quelques-uns? Vous avez une population rurale? Comment ils se situaient par rapport aux Gilets jaunes? Ils ont été mobilisés?
Aux Gilets jaunes, j'ai le sentiment, de ce qu'on lit dans la presse nationale, une forte adhésion au début, un gros soutien, beaucoup de gilets derrière les pare-brises, pas mal de monde parce qu'on a un gros rond-point hein, qui dessert l'autoroute et la Nationale 4, et puis un mouvement qui s'étiole un petit peu en nombre, mais néanmoins qui est très tenace, qui a sa cabane qui est encore implantée aujourd'hui, et des gens qui passent quasiment jour et nuit. Mais on sent effectivement, avec le temps, une petite distance d'une partie de la population.
Que réclament-ils aujourd'hui, ceux qui sont encore mobilisés sur le rond-point, monsieur le maire, Danny Cochet?
Ah, le sentiment, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas avoir obtenu l'ensemble des revendications auxquelles ils pensent avoir droit sur le pouvoir d'achat, notamment, je pense, pour les retraités. Et puis, alors après, il y a ce débat du RIC qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est repris un petit peu comme un étendard. Je pense aussi aujourd'hui qu'une partie de la cohésion des Gilets jaunes vient du mouvement de répression qui a été, à mon avis, très fort et, à mon avis, un peu disproportionné et qui crée une espèce aujourd'hui de ferveur et de motivation chez eux pour continuer parce qu'ils ont été un peu brimés, le sentiment que j'en ai.
Il y a un jeune garçon qui a été blessé grièvement à Strasbourg, je crois que c'était il y a 15 jours. Monsieur le maire, votre réaction? Monsieur le maire de Strasbourg, cette fois-ci, Roland Ries.
Oui, moi je pense que cette question de l'aménagement du territoire et des injustices qui existent dans ce pays, des inégalités de territoire, est une question importante. Et probablement, la profondeur de la contestation, elle est aussi là-dedans. Des territoires ruraux qui s'estiment laissés pour compte, enfin, au profit des grandes villes, des métropoles ou des bourgs de centralité. Je pense que l'idée du ruissellement, pour reprendre un concept du président de la République, est une idée qui ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas au point de vue social, elle ne fonctionne pas au point de vue culturel et elle ne fonctionne pas au point de vue territorial. L'idée que tout part de certains pôles qui ensuite se répercutent dans les territoires ruraux, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans la réalité. Et je pense que ce mouvement... qui est parti de quelque chose de très concret sur le prix du carburant, aujourd'hui révèle des fractures profondes dans le pays. Je pense qu'il faut travailler là-dessus, à une convergence et à une complémentarité des territoires.
Jamina Hadoum, vous qui travaillez au centre socio-culturel du Neuhof à Strasbourg, un quartier défavorisé, justement, comment vous voyez ce grand débat, cette possibilité de réduire la fracture, si vous êtes d'accord pour dire qu'on vit aujourd'hui, nous Français, dans une société clivée?
Ben nous, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les jeunes, avec le retour, je vous parle souvent de retour de jeunes, parce qu'on échange pratiquement tous les soirs sur les différentes choses qui se passent, les gilets jaunes, le jeune justement qui a reçu un flashball,
dans la
et en plus la maman elle insiste parce que justement il a cette image de casseur alors qu'il rentrait, il allait juste s'acheter une paire de baskets et il sortait.
C'était un passant.
Donc ça aussi, ça a été un très gros débat au sein du centre. Nous nous en avions beaucoup parlé et d'où le grand débat aussi, pourquoi on a voulu mettre en place ce grand débat là parce que ça nous permet de ils vont peut-être se lâcher sur tout et n'importe quoi, mais ça va leur permettre surtout de pouvoir s'exprimer, de voir ce qu'ils en pensent, parce que à la base les gilets jaunes c'est des citoyens comme nous tous qui veulent aider tous les publics, c'était ça le but. Donc ce qui se passe, c'est que nous comptons vraiment sur ce grand débat et ce cahier de doléances. Je le dis, il y a un cahier de doléances qui est mis en place au Centre social et culturel du Neuhof. On peut venir s'exprimer et réunir pour remonter tout ça.
Mais en tout cas, les jeunes avec qui vous travaillez, qui sont pour la majorité d'entre eux issus de l'immigration, se sentent pas du tout coupés de ce mouvement des Gilets jaunes. Ils le ressentent pas comme étant un mouvement qui leur est étranger, selon vous.
Non, il n'est pas étranger. Ils savent très très bien pourquoi ils sont dans la rue, les gilets jaunes, et ils le disent, c'est pour le pouvoir d'achat, ben, l'augmentation de l'essence. Non, non, ils savent très bien, ils savent c'est quoi les gilets jaunes. Au-delà du fait que je disais tout à l'heure, c'est devenu un petit peu une mode, ils savent très bien, et une majorité soutient le mouvement sans y être, mais ils soutiennent le mouvement avec ce qu'ils ont pu voir sur Internet. Beaucoup de jeunes aussi, il faut dire qu'ils se basent sur ce qu'ils lisent et ce qu'ils perçoivent sur les réseaux, les médias. Des fois, la majorité du temps, ils n'ont même pas vu de gilets jaunes, mais c'est surtout Internet qui leur parle.
Et puis, nous sommes en duplex avec Stanislas Nordet. Bonjour.
Bonjour.
Stanislas Nordet, vous êtes directeur du Théâtre National de Strasbourg. Parmi les revendications des gilets jaunes, la culture occupe une portion congrue jusqu'à présent.
Plus que congrue. Mais je pense que c'est pas simplement lié aux gilets jaunes, c'est parce que la culture malheureusement est absente en général de la parole des politiques, de la parole des intellectuels, et que évidemment ce point qui est pour moi très important, qui est un point de ciment, de réconciliation entre nous tous, qu'est la culture, est quelque chose qui est trop abandonné de tous du discours politique habituel, ce qui fait que malheureusement moi j'ai suivi bien sûr avec énormément d'attention tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, et il y avait une absence totale finalement. On aurait aimé qu'il y ait une revendication pour plus de culture, pour plus d'art, je pense aussi que la responsabilité elle est portée par toute la succession des politiques, d'ailleurs, qui sont de droite ou de gauche, peu importe. Malheureusement, depuis un certain nombre d'années, le fait culturel ou la place de l'art a disparu de la plupart des grandes prises de position, en tout cas.
Et ça, justement, comment vous, Stanislas Nordet, qui est un acteur important du monde du théâtre français, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter, leur suggérer à ces gens qui se mobilisent parce que la culture et les inégalités culturelles sont aussi au cœur du clivage, et pourtant on parle pas du tout de ça.
On sait par exemple que la question des zones blanches existe véritablement culturellement. C'est-à-dire, on pourrait dire que il y a des grands plans sur le numérique pour que tout le territoire soit couvert sur la question de la culture. Là, il y a un vrai manque. Moi, j'étais il y a quelques jours avec le TNS à Saint-Dié-des-Vosges. On est allé faire une création là-bas. On essaye le plus possible d'être au plus proche de tous. Mais là, il y a une véritable question, puisque on va dire, on sait quand on est sur le terrain, et les gens qui sont autour de vous le savent, d'autant plus qu'à Strasbourg, on a vraiment, pour le coup, un endroit où la culture est une des priorités de la municipalité. Mais au-delà de ça, la culture, on sait quand on est sur le terrain, quand on fait des ateliers de pratique artistique, on fait énormément de choses comme ça au TNS, on les a démultipliés parce qu'on sait que quand on est au plus proche, et notamment des jeunes, qu'on amène cette question de la parole, de la pensée, il y a immédiatement quelque chose qui advient. Et face à toutes les questions profondes qu'on a, qui vont du terrorisme à l'abandon de certains territoires, on sait, nous qui sommes sur le terrain, que très concrètement, quand il y a des moyens qui sont mis en faveur de la culture, il y a quelque chose qui se passe immédiatement et rapidement auprès des populations touchées. Et là, il y a un véritable manque, je dirais, de prise de parole nationale. Moi, avant les présidentielles, j'avais ausculté tous les programmes des candidats parce que ça m'intéressait. La question culturelle est absente de la parole politique aujourd'hui au point de vue national. Et ça, c'est un vrai problème, parce que on ne peut pas s'étonner après que ce soit absent aussi des débats les gilets jaunes.
Oui, des débats locaux. Voilà. Justement, on va poser cette question aux deux maires qui sont en notre compagnie. Dany Cochet, maire de Phalsbourg.
Oui, je ne suis pas sûr d'être complètement d'accord avec Stanislas, que je salue, puisque je suis très impliqué aussi dans le monde du théâtre par ailleurs. Je pense pas que les politiques publiques, et je voyais Roland Ries faire la moue,
le maire de Strasbourg
a raison, oui, que les politiques publiques nationales ou locales aient abandonné la culture. Au contraire, je crois qu'en termes de place, d'investissement et d'argent, on n'en a jamais fait autant. Mais moi, là-dessus, j'aimerais rebondir. Je crois qu'un des gros malheurs culturels de notre civilisation depuis les 30 ans que la télé est complètement libéralisée, c'est une catastrophe. Je veux dire, on est en train de former des abrutis à longueur de journée avec des chaînes de télé, des émissions débiles. Et je trouve que là-dessus, les politiques ne font pas leur boulot. Et c'est là qu'il faudrait agir. Et que là encore, il y a des vraies fractures, des vrais clivages entre les publics. Alors, ceci dit, je trouve qu'il faut aussi respecter les publics
mais
dits
est-ce que
populaires.
Vous, est-ce que vous vous sentez... Vous êtes à 45 km de Strasbourg. Vous êtes maire d'une commune de 5000 habitants. Est-ce que vous vous sentez déshérité sur le plan des infrastructures culturelles?
Non. Non, parce que d'abord, Strasbourg est tout près où il y a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, en Alsace en particulier, dans le spectacle vivant, il y a énormément de salles dans toutes les petites villes qui ont été mises en place, soutenues par la région, les municipalités. Il y a une offre très grande, en musique aussi, beaucoup aujourd'hui, en termes d'écoles de musique ou de concerts. Mais je crois que là encore, il y a différents publics, les gens ne se croisent plus. Et je crois qu'il faut aussi ne pas avoir un œil trop condescendant toujours sur les cultures populaires, voire populistes, comme on dit aujourd'hui. Et j'aime pas trop ce mot par ailleurs.
Stanislas Nordet, votre réaction, vous qui êtes directeur du Théâtre National de Strasbourg
Moi, je dirais que localement, effectivement, il y a beaucoup de choses. L'État, d'ailleurs, a énormément délégué aux collectivités locales, ce qui est à la fois un bien et un problème, parce que il y a en même temps une forme de désengagement. Là, je persiste des signes parce que je connais très très bien le dossier. Un désengagement qui ne date pas de ce gouvernement, mais que ce gouvernement a continué à acter. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de moyens concrètement pour la culture. Là, il y a une responsabilité, je dirais, qui est la responsabilité de tous. Et on le voit concrètement avec des baisses régulières de subventions. Et le problème est qu'on nous demande d'en faire de plus en plus, et y compris pour pouvoir justement réduire un certain nombre de choses liées aux fractures sociales, ce qu'on fait avec cœur. Mais pour le faire, il faut mettre des acteurs sur le terrain. Donc ça demande des moyens. Donc là, il y a une vraie question. Alors, on est à Strasbourg, on a de la chance, c'est presque une exception, parce qu'on est dans un endroit où il y a une volonté de la municipalité de s'engager véritablement dans la culture. Mais au niveau national, il y a une vraie question. Ça, je persiste et signe en toute connaissance de cause, et tous les acteurs de la culture qui m'écoutent le savent, ça. Parce que
On va poser la question à Roland Ries, qui est maire de Strasbourg, puis à Jemida Hadoum.
Bien, je suis d'accord.
Vous êtes d'accord pour dire que votre bilan est bon en matière de culture.
Non, je suis d'accord avec les correctifs que Stanislas Nordet a apportés en cours de route. Qu'au niveau national, il puisse y avoir des désengagements en matière culturelle, probablement, il a sûrement raison. Mais qu'ici, à Strasbourg, je crois que tout le monde le sait, on est la ville de province de France qui, de très loin, consacre la part la plus importante de son budget à l'offre culturelle.
Quelle est la part de votre budget en pourcentage ?
On est à près de 25%. Au niveau de la ville de Strasbourg, ce qui est considérable. Et par ailleurs...
Alors, par exemple, un théâtre comme le Théâtre National de Strasbourg...
Il y a l'Opéra, il y a l'Orchestre Philharmonique, tout ça, ce sont des...
Ça absorbe quelle part de votre budget environ ?
Un quart à peu près.
Mais pas uniquement via le théâtre et l'opéra.
L'offre culturelle, globalement, y compris les médiathèques, tout ce qui est en rapport avec la culture, c'est à peu près 23 ou 24% de notre budget, ce qui est considérable. Mais la difficulté, et je pense que Stanislas Nordet sera d'accord avec moi, la difficulté qu'on a, c'est de faire du neuf en matière culturelle. Parce que on peut pas indéfiniment accumuler les budgets. Je crois qu'on pourra pas aller au-delà de cette part de budget. Et du coup, on essaye de le faire, par exemple à la COP, dans le secteur de la COP, au Port du Rhin, par exemple à la laiterie, de faire émerger des nouvelles formes de culture. Mais pour cela, il faut un peu aussi, couper dans ce qui existe. Réhabiliter le Racing. Alors ça, je laisse la responsabilité à l'auditeur qui s'est exprimé.
Je ne sais pas de quoi il s'agit.
Le Racing Club de Strasbourg, l'équipe professionnelle de football. C'est un vieux débat entre sport professionnel qui coûte effectivement, mais par rapport à l'offre culturelle et au budget à la culture, on est très loin de ce qui est fait là.
Et vous, votre point de vue, Jamila Hadoum, vous qui travaillez au Neuf, donc dans un quartier de Strasbourg qui est plutôt un quartier défavorisé.
Qui est défavorisé, mais nous avons au niveau de la culture, il y a plein de richesses. Nous avons par exemple le centre social et culturel, il y a une école de musique où il y a en place justement NHF Orchestra, où c'est des jeunes du quartier qui font partie
d'un groupe de la musique. Voilà, vous êtes, je crois, investi particulièrement dans la musique.
C'est ça.
Dans le rap.
C'est ça. Avec mes deux enfants, nous avons fait La France a un incroyable talent. Nous sommes arrivés en demi-finale. Ben, on avait du
Félicitations.
Coup.
Félicitations.
Ben, merci. Et ben, ce qui a permis aussi une pierre de coup de pouvoir permettre à tout un quart de venir nous soutenir, donc voir comment que ça se place un plateau de TV, tourner dans nos clips. Mm-hmm. Donc c'est pour ça que la culture au neuf, elle est très importante à tous les niveaux, parce que là c'est du rap. Par contre, ils jouent. Ben, il y a un jeune qui va jouer du violon, un autre qui va jouer du saxophone, un autre. Et ça, c'est juste génial de permettre ça et que des jeunes puissent connaître ce genre d'instrument, alors que dans un quartier nous avons l'habitude d'aller que en direction du rap généralement, et là c'est pas du tout le cas.
Mais en fait depuis que vous avez été militante associative dans ce quartier, je n'ai pas l'impression que vous ayez le sentiment qu'il y ait une vraie coupure entre ce quartier et le reste de Strasbourg. Vous n'avez pas la sensation d'être isolé ou...
Personnellement, je l'ai pas. Les jeunes non plus, mais parce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. On sort facilement quand il se passe un événement au centre-ville ou dans un quartier. Les jeunes sont déjà allés voir une pièce de théâtre, à l'opéra. On fait ce genre de choses en fait.
Donc
au sein
les
du
choses
centre.
Se passent plutôt bien. Stanislas Nordet, un mot de conclusion justement sur ce qui serait possible de faire. Alors pour vous, vous êtes directeur du Théâtre National de Strasbourg. Vous avez toujours été actif dans la démocratisation de la culture, même un peu un radical avec des billets à prix unique. Est-ce que aujourd'hui il y aurait une étape supplémentaire à faire?
Mais moi, je pense que, contrairement à ce qu'on dit parfois, la décentralisation théâtrale a réussi, mais elle s'est arrêtée en route. Il faut continuer. Il faut aller plus loin, dans, notamment géographiquement, aller partout et pas simplement. On a, en 1945, à la fin de la guerre, il y avait de la culture du théâtre d'art simplement à Paris, on va dire. Aujourd'hui, il y a dans toutes les grandes villes de France. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va plus loin. Et pour aller plus loin, j'insiste, il faut des grandes politiques culturelles au niveau national.
Merci.
Et là, on est en manque.
Merci beaucoup Stanislas Nordet d'être intervenu. Merci Jamila Hadoum. Je rappelle Merci. Que vous êtes animatrice au Centre socio-culturel du Neuf. Merci à mon camarade Pascal Coquise des Dernières Nouvelles d'Alsace et aux deux maires qui sont présents, Dany Kocher, maire de Phalsbourg, et Roland Ries, maire de Strasbourg. Cette journée spéciale et en public depuis la librairie Kléber à Strasbourg se poursuit avec la grande table de ma camarade Olivia Gesbert de 12h à 13h30 avec Rodolphe Burger. Et le musicien vous fera part de sa part alsacienne, et puis il y aura le grain à moudre à 18h20 d'Hervé Gardette, et enfin une rencontre avec le public sur la fabrique de l'information modérée par Éric Valmire. Ça sera à 19h15 avec Sandrine Trainer, directrice de France Culture, Frédéric Barrère, directeur de la rédaction, et puis également mon camarade Stéphane Robert, Hervé Gardette. Voilà, beaucoup de choses prévues. Merci à tous ceux qui ont rendu cette matinale possible. Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouen Guizhou, Roman Bornstein, Léna Demeuré, David Jacoboviez, Martin Descloseau, François-Charles Demergue, Sandrine Malon, Tanguy Le Corneau, Laurent Frassia, Rémi Gouriot, Francesca Fossati, Jean-Marc Clause et surtout toute l'équipe de la librairie Kléber. Merci à tous. Il est 9h sur France Culture.